C'est juste pour rappeler à ceux qui ne le sauraient pas encore que la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin a mis en œuvre l'été dernier, une bibliothèque numérique dans laquelle vous pouvez accéder à une quantité relativement importante de ressources. Alors déjà, toutes les ressources imprimées, publiées par la société, donc le bulletin annuel depuis 1943, il y a quelques trous, parce qu'il y a des années où il n'y a pas eu de bulletin, mais il y a à peu près un peu plus de 70 numéros qui ont été donc édités, qui ont été numérisés et mis en ligne, des ouvrages hors bulletin, des monographies, des différents les contes consulaires, des poésies de Pierre Bayrou, etc. On a aussi ceci de la bibliothèque numérique, et en lien avec cette journée, toute une 50 émissions de radio qui ont été enregistrées par Georges Julien, qui est un des beaux personnages de notre société et qui était un remarquable historien. Et on a 50 émissions et dont 10 sur les 50 concernent la République protestante de Saint-Antonin, le siège de 1622 et la fin de la République protestante. Donc il y a toute une série d'émissions qui sont assez intéressantes sur... voilà. Et enfin, mais ça, c'est pas terminé, sur le site de la bibliothèque numérique, on, petit à petit, on met en ligne des documents qui ne sont pas édités par la société, mais qui sont en lien avec nos thématiques, et en particulier, il y en a un certain nombre sur le protestantisme. Je pense à des articles de Firmin Galabert ou d'autres qui ont été publiés, par exemple, dans la société archéologique. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles, la société archéologique du Tarn-et-Garonne, mais ce n'est pas fini, parce que ça, c'est un énorme travail de repérage et qui n'est pas terminé. Voilà. Donc, je ne sais pas si on présente Jean-Pierre Amalric, je ne crois pas, professeur honoraire de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, compagnon de route, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, citoyen de Caylus, de Montauban, voilà, et d'autres lieux.
Eh bien, je vous remercie de rappeler ces éléments d'identité. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce que je vais essayer d'évoquer devant vous prolonge ce que j'avais essayé de faire l'an dernier au moment où s'était tenu à Montauban le colloque commémorant le 4e centenaire du siège de Montauban, puisque j'avais essayé de retracer ce qu'avait été la vie et le rôle de Louis XIII pendant le siège de Montauban, quand il séjourner au château de Piquecosse. Et d'une certaine manière, la campagne où nous allons essayer de le suivre aujourd'hui est à la fois comparable, nous le verrons, mais aussi différente de celle qu'il avait connue l'année précédente. Alors, l'échec qu'il a subi en 1621 n'a pas abattu sa volonté de réduire la rébellion protestante, c'est ainsi qu'il la considère, dirigé par le duc de Rohan, dont nous avons parlé, et son frère Soubise. Et pourtant, le contexte de la campagne dont il prend la tête en 1622 est bien différent. Pour la première fois, ce roi qui a 20 ans, rappelons-nous ce fait, eh bien, il est le seul maître du jeu. C'est la première fois. Pour accéder à la plénitude du pouvoir absolu, il lui avait fallu, rappelez-vous, éliminer le favori mis en place par sa mère, le maréchal d'Ancre, Concini, en le faisant assassiner. Il lui avait fallu mettre sur la touche son encombrante mère, qui voulait poursuivre ses fonctions pratiquement de reine régente. Et enfin, il lui avait fallu, c'est ce que j'avais, je crois, mis au jour l'an dernier, supporter la pression exercée sur lui par son favori, le duc de Luynes, qui, pendant le siège de Montauban, fonctionnait à ses côtés, mais comme pratiquement un vice-roi, puisqu'il n'y avait pas de conseil, il n'y avait pas de décision que les deux hommes ne prissent en commun. Et cette fois, il est débarrassé de Luynes, qui a eu le bon goût de mourir à la fin de la campagne de 1621, de maladie, alors que, je crois en avoir apporté la preuve l'an dernier, Louis XIII était décidé à se débarrasser de lui parce qu'il lui imputait l'échec du siège de Montauban et la mauvaise conduite de la campagne de l'été 1621. Eh bien, désormais, il n'y a plus de favoris et il n'y en aura plus vraiment au niveau du gouvernement, puisque quand en 1624 il appellera le cardinal de Richelieu, ce ne sera plus un favori, ce sera un principal ministre avec qui les relations ne seront plus du tout affectives, mais ce seront uniquement des relations politiques. Désormais, en tout cas, c'est à lui d'assumer le pouvoir et de dessiner le jeu qu'il compte mener cette année-là. Il me semble qu'un point essentiel, dès le début, c'est qu'il va s'efforcer de constituer autour de lui un état-major de nature militaire plus que politique. Un état-major dans lequel il va faire siéger ses plus proches parents, qui s'étaient montrés plus que turbulents. On rappelle que l'un d'eux, Condé, avait mené une révolte contre lui. Et donc, c'est à eux, en les prenant sous sa coupe, qu'il va confier la conduite des opérations. C'est le cas donc de César de Vendôme, le premier duc de Vendôme, qui n'est autre que le fils bâtard de Henri IV et Gabriel d'Estrées, et qui est donc un demi-frère de Louis XIII en réalité. Eh bien, c'est ce duc de Vendôme, dont le nom vous a été cité bien des fois depuis ce matin, qui est chargé, dès le début, de mettre en place le siège de Saint-Antonin. Et celui qui partage la conduite, celui qui est peut-être général en chef, on en a aussi parlé ce matin, c'était Pierre-Jean Souriac, c'est le cousin du roi, Henri Ier de Condé, Monsieur le Prince, donc prince du sang, puisque je rappelle que les Condés sont une branche cadette de la maison de Bourbon, qui va être à la tête de l'armée royale aussi en 1622. Ce sont deux figures, il faut s'en rendre compte, dans le contexte politique de l'époque, considérablement remuantes, redoutables, aînés du roi. Les mettre sous sa coupe, c'est déjà un acte politique. Alors, bien entendu, il n'y a pas que eux qui accompagne le roi dans sa campagne. Il y a aussi ceux qui pourront siéger à son conseil à leur côté, parmi lesquels un personnage aujourd'hui un peu oublié, un peu négligé, mais nous verrons que son rôle n'est pas inexistant, c'est l'évêque de Paris, car Paris n'a pas d'archevêque à cette date. Ça ne viendra qu'un peu plus tard. Le cardinal Henri de Gondi, le cardinal de Retz, qu'il ne faut pas confondre avec son infernal neveu qui lui succédera par la suite, qui porte le titre honorifique de chef du conseil et qui siège régulièrement donc dans ces instances. C'est, je dirais, le seul qui porte une voix qui ne soit pas militaire, en réalité, dans ces instances. Alors ensuite, bien entendu, d'autres figures jouent un rôle important dans la conduite des opérations militaires. On a parlé de Bassompierre, qui n'est pas maréchal à cette date, il est maréchal de camp, ce n'est pas la même chose, mais il joue effectivement un rôle très actif. Et alors, il y a celui dont on peut considérer que le rôle stratégique va être déterminant, en particulier à Saint-Antonin, c'est Henri de Schomberg, qui est grand maître de l'artillerie, et qui a la charge donc de faire suivre, d'acheminer les pièces et les munitions que, à Saint-Antonin, personne n'attendait, car c'est un des grands éléments de surprise du siège de Saint-Antonin, être arrivé à hisser par des chemins escarpés et ses pièces d'artillerie. Schomberg, qui par ailleurs est encore à cette date contrôleur général des finances, c'est-à-dire c'est un personnage clé de ce qui est le gouvernement central, que Louis XIII ne cesse de remodeler, mais avant Richelieu, ce n'est pas le désert, contrairement à ce que les livres élémentaires disent. Non, Louis XIII cherche à construire un gouvernement et à la date dont nous parlons, voilà quels en sont les principaux piliers. Et je voudrais enfin dire un mot d'un autre général dont le rôle n'est pas négligeable, comme il l'avait d'ailleurs été au siège de Saint-Antonin, de Montauban, pardon, c'est le maréchal de Thémines. Alors, pourquoi son rôle est-il important? Parce que je dirais que c'est le régional de l'étape. Il est sénéchal de Quercy, il appartient à une des familles les plus brillantes, les plus réputées du Quercy, et d'une certaine manière, c'est lui qui assure le relais, certainement, avec l'environnement géographique proche, et en particulier les secours, les concours que l'on peut attendre des villes, des villages qui sont loyaux au roi. Voilà, si vous voulez, l'équipe, si j'ose dire, dont le roi s'entoure pour mener cette campagne. Mais il est bien décidé à ne pas leur laisser la bride sur le cou et à ne pas les laisser en dehors de l'autorité qu'il compte exercer. Rappelons enfin que c'est au même moment qu'après la campagne, dans la première étape qu'il vient de mener, notamment en Vendée, puis à Royan, puis dans la vallée de la Garonne, une autre de ses ambitions est d'élargir le cercle des grands sur lesquels veut s'appuyer l'autorité royale en ralliant les grands du camp protestant. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, mais ça fait partie d'une stratégie. Ça, c'est déjà le cas du maréchal de la Force, qui avait été un des défenseurs de Montauban et qui va maintenant rallier le camp royal. Et très bientôt, ça va être le camp, on l'a dit, le cas de Lesdiguières, qui se verra proposer la haute charge de connétable de France que Luynes occupait et qui n'avait pas eu de remplaçant. Ainsi, il s'agit bien, à l'occasion de cette campagne, d'essayer de créer une discipline dans le camp des grands sous l'autorité du roi. Je m'empresse de dire que cette tentative durera l'espace d'une saison et que, passé 1622, très vite, on verra se reproduire la rivalité des ambitions entre plusieurs de ces personnages. Mais en tout cas, la volonté du roi à ce moment-là, c'est très clairement celle-là. Et donc, cette fois, plus de connétable de Luynes pour prétendre diriger les opérations à sa manière brouillonne. C'est au roi lui-même, pour la première fois, d'assumer de façon ostensible le rôle de roi de guerre, pour reprendre l'expression popularisée par Joël Cornette. Ça veut dire qu'il est décidé à assumer personnellement le commandement, ce qu'il n'avait pas fait vraiment en 1621. Il tient à montrer sa connaissance des hommes, non seulement des généraux qui sont proches de lui, mais aussi, nous dit un chroniqueur, des principaux soldats, des vieilles troupes, les figurant par leurs gestes, leurs allures et par l'estime qu'en faisaient ceux qui les avaient en charge. En outre, il ne craint pas de manifester sa connaissance du terrain à la manière d'un chef d'état-major. Et c'est ce qu'il va démontrer très vite quand il va aborder notre région, à Moissac, et comme le rapporte l'auteur dont je vais maintenant principalement m'inspirer et qui a été peu lu et peu cité, mais que je crois d'un grand intérêt. Il s'agit du dénommé Michel Bernard, qui a reçu l'année précédente la charge d'historiographe de France, après avoir été lecteur de la Chambre de Sa Majesté. Ce Michel Bernard mourra en 1635, si je ne me trompe, et il ne laisse aucune œuvre à cette date, et c'est en 1646 que son neveu, Charles Sorel, écrivain par ailleurs connu, va publier l'histoire du roi Louis XIII, qui n'a qu'une édition, qui est un volume d'un bon millier de pages, dont il n'y a qu'une édition, qui est assez difficile à trouver en bibliothèque, mais, oh miracle, elle est disponible en Google Book et elle s'est révélée une véritable mine. Alors, vous allez me dire, j'entends déjà Guy Astoul et d'autres me dire, ah oui, encore un de ces historiographes qui sont là pour cirer les pompes du pouvoir. Dans une certaine mesure, oui, c'est inévitable, on ne crache pas dans la soupe. Mais par ailleurs, ce qui est très évident, quand on le lit attentivement, c'est que c'est un témoin oculaire et proche de cette campagne. J'avais déjà remarqué que certaines de ces notations à Picquecos, par exemple sur l'état sanitaire, sur l'épidémie, est figurée parmi les plus précises. Sur le logement, sur les conditions de logistique aussi, il est extrêmement attentif. Et là, eh bien, vous allez voir que, à des moments décisifs, il est là pour observer le comportement du roi avec un degré d'intimité que je ne trouve pas chez d'autres auteurs. Par exemple, il y a un autre historiographe qui est Scipion Duplex, une créature de Richelieu, qui va aussi publier avant lui, d'ailleurs, une histoire de Louis XIII, où on ne trouve pas ce genre de détails parce que visiblement, il travaille sur des relations indirectes sans avoir eu ce contact direct. Donc, d'une certaine manière, ma petite communication, c'est une réhabilitation de Michel Bernard. Je me doute bien qu'il y aura de bons auteurs pour le discréditer. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte sur ce qui se passe à cette fonte? Eh bien, voilà. Le propos étant du rendez-vous de la plaine de Saint-Maurice qu'il avait donné à son armée près de Picquecos. Saint-Maurice est un petit village au bord de l'Aveyron, effectivement, à 3 km, 4 km, en aval de Picquecos, c'est-à-dire là où le roi avait séjourné l'année précédente. Et c'est là qu'il a donné rendez-vous à son armée, au régiment qui doivent le rejoindre. Il n'y en eut guère qui se souvinsse de cette plaine. Eh oui, on l'avait oublié. Quoique l'année précédente, il y eut eu un pareil rendez-vous. Et quelques-uns demandaient de quel côté cette plaine pouvait être. Il se fit apporter du papier et une plume, et par une carte chorographique qu'il fit fort diligemment et en leur présence, leur montra toute cette contrée. Depuis une petite ville nommée La Française jusqu'à Négropolis, avec les villes, bourgs et villages, et quelques maisons particulières qui étaient entre les rivières du Tarn et de l'Aveyron. Il fit cela si exactement qu'aucun ingénieur ou géographe, étant sur le lieu et tout à son loisir, ne le pouvait représenter plus naïvement, c'est-à-dire plus fidèlement. Mais comme il ne faisait pas les choses par vanité, il voulut déchirer cette carte. Et Michel Bernard de dire, heureusement, j'ai réussi à ce qu'il me la remette. Voilà. Et donc, vous voyez cette attitude qui est bien celle d'un chef d'état-major avant même d'entreprendre cette étape dans la campagne. Il se montre tout aussi attentif pour diriger les opérations tactiques jusque dans leurs moindres détails. Le 7 juin, donc, il se retrouve en terrain connu, à Saint-Maurice, et il va falloir traverser l'Aveyron. Eh bien, il ne craint pas de veiller lui-même à la traversée de l'Aveyron, parlant, nous dit le chroniqueur, parlant à la plus grande partie des capitaines auxquels il donna l'ordre pour passer la rivière. Après quoi, poursuit-il, à la tête de sa cavalerie, il fut passé à un gué un peu plus bas, qu'il avait dû repérer, qui n'était pas si bon que son cheval n'en eût jusqu'à la selle et lui jusqu'aux genouillères des bottes. Et on le voit même porter secours dans cette traversée de l'Aveyron à l'un de ses gendarmes, emporté par la rapidité de l'eau, et l'aider à se relever pour le reconduire sur la berge. Et désormais, si vous voulez, à la guerre comme à la guerre, le roi conduit la campagne de la manière la plus ostensible qui soit. Ayant rassemblé son armée, il trouve un logement pour la nuit au château de Villemade que les Montalbanais venaient d'évacuer la veille. Mais le château est exigu, il ne peut contenir sa suite, et, nous dit-on, la plus grande partie fut contrainte de loger dans un pré à la Belle Étoile, comme tout le reste de l'armée, et y campa. Encore faut-il dépêcher gardes et sentinelles aux alentours de Montauban pour assurer qu'il n'en vient aucune alarme. La question que se sont posées beaucoup d'auteurs est de savoir si, à ce moment-là, Louis XIII a eu une intention ou une hésitation ou une volonté de s'attaquer à Montauban et de venger l'échec de l'année précédente. En réalité, rien ne semble l'indiquer. Il semble avoir pris son parti de laisser la ville dans l'état où elle se trouvait sans renouveler une épreuve de force qui aurait mobilisé et immobilisé aussi, il le savait, une grande partie de son armée. Et si bien que, on le voit, le matin venu, après avoir entendu la messe à 9h, monté à cheval, il part de Villemade, ayant fait mettre et marcher son armée en bataille, passant près de Montauban, sans autre intention offensive. Après quoi, et je crois que c'est Georges Passard qui nous l'a dit, il dîne à 11h à Albias, effectivement, dans un champ labouré au grand soleil, et puis il monte à cheval et arrive à Lasgardis, donc voilà, près de Négrepelis, et voir les attaques qui se faisaient. Alors, la question est de savoir, là aussi, et le texte en question ne permet pas de trancher, s'il avait l'intention d'assiéger Négrepelis ou s'il s'est trouvé un incident qu'il y a décidé. D'après Bernard, son intention était simplement d'aller coucher à Négrepelis et non de l'assiéger. Il écrit « Jamais siège ne fut moins prévu, quoi qu'il fût sitôt prêt. » D'après lui, ce serait l'attitude des habitants de Négrepelis qui aurait provoqué l'affrontement. Certains avaient commencé à déserter la ville pour se réfugier à Montauban. Ceux qui y restaient repoussèrent bruyamment les fourriers du roi quand ils se présentèrent. Et très vite, des coups de mousquet partirent apparemment de la ville. Et ce serait ce comportement qui aurait déclenché la décision plus ou moins improvisée d'entreprendre le siège. C'est un témoignage parmi d'autres, mais j'ai écouté ce que nous a donné Georges Passera et la discussion là-dessus pourra se développer. Quoi qu'il en soit, le souvenir du massacre de décembre 1621 reste vif dans l'entourage du roi et chez lui-même pour laisser se déchaîner effectivement cette vengeance du roi dont il a été question. Rien ne dit que la violence n'aurait pas éclaté, même si les troupes royales avaient obtenu le logement dans la ville. Un quelconque incident aurait pu la déchaîner s'ils y avaient pénétré. D'après donc Bernard, le roi, en tout cas, n'hésite pas à s'adapter à la situation. Je le cite, « Ayant mis un grand ordre dans l'armée et disposé de tout, il vint loger en une pauvre métairie de paysans où il n'y avait qu'une chambre proche du toit qui se voyait à découvert à laquelle il fallait monter » par une échelle du bas qui servait de cellier, on fit la salle pour ses gardes. Il y a peu de laboureurs qui n'aient de meilleur logement. La plus grande part de la cour logea dans des huttes que chacun fit faire. Au reste, il y eut grande nécessité de vivre. La maison du roi, hors la table de sa majesté, ayant été un jour 120, ce qu'on n'avait jamais vu. Donc, les difficultés logistiques sont à l'ordre du jour. Encore faut-il pour le roi que le corps suive. Je parle du corps physique. Et ça, c'est un élément, je pense, qu'il faut évoquer au vu des témoignages concordants que nous avons. Car le lendemain, le 9 juin, voilà que ses forces le trahissent. Le roi est secoué par une toux tenace, nous dit-on, depuis son départ de Moissac. Et soudain, il se voit torturé par une de ces violentes crises intestinales, il faut bien le dire, du mal chronique qui l'afflige. Et les médecins aujourd'hui, de façon unanime, pensent qu'il s'agissait de la maladie de Crohn, une maladie aux symptômes humiliants pour le souverain, puisqu'il s'agit de violentes et douloureuses diarrhées dans lesquelles qu'on n'arrive pas à surmonter pendant des crises qui durent plusieurs jours. Alors, nous avons le compte-rendu de son fidèle médecin, évidemment, Héroard, qui le suit partout, et qui ne nous laisse rien ignorer de son traitement et des pénibles séquelles qui s'en suivent. Deux jours de suite, je ne cite qu'un de ses bulletins médicaux pour ne pas abuser de vos sensibilités. Clystère purgatif avec séné en infusion et du beurre frais. Gardez demi-heure le rang, quantité d'excréments avec des phlegmes. Et deux autres fois, où il y avait plus de 2000 livres de gros phlegmes et un gros tas. La quatrième, phlegme de même de plus de 3 onces. Voilà. Donc le roi, et le lendemain c'est pareil ou c'est pire. Donc voilà le roi quand même, ça c'est un élément je crois à prendre en compte. Cloué au lit, enfermé dans sa chambre, c'est donc de sa fenêtre, effectivement, de l'Asgardie, qu'il peut apercevoir l'assaut donné à la ville. Et Roard est très succinct, il dit « La ville qui fut prise, tout tuée et le lendemain brûlée. » Ça, c'est le compte-rendu du médecin. Alors, la question que nous pouvons nous poser, peut-on penser que le roi soit resté simple spectateur extérieur au déroulement du siège et au massacre qui le suivit. Ce n'est pas ce que rapporte Charles Bernard, selon lequel, se fâchant que ce siège se fît sans qu'il le vît, il ne laissa pas pour autant d'y ordonner beaucoup de choses, et les plans et les cartes des travaux lui en étant apportés à chaque moment. Son rôle de chef de guerre n'est donc pas interrompu par la maladie. Mais cela laisse ouverte la question de sa responsabilité dans le massacre. D'après Charles Bernard, enfin dans le texte de Charles Bernard, comme d'ailleurs de l'autre chroniqueur que je citais, et même dans le Mercure français, ce sont les sources que j'avais consultées, on n'a pas la trace d'un ordre ou d'une consigne qu'il ait personnellement donné. Mais il m'a semblé, écoutez, Georges, qu'il y a peut-être quand même d'autres sources. En tout cas, on peut se poser la question, a-t-il pris les dispositions pour le prévenir? A-t-il cherché à juguler l'attention, la rancune exacerbée de ses troupes envers les auteurs du massacre de la garnison de décembre 1621. une exaspération qui tenait peut-être, et ça c'est un point que je voudrais ajouter à l'exposé de Georges tout à l'heure, à l'identité des soldats qui avaient été victimes de ce massacre. Il s'agissait en effet du régiment de Vaillac. Cela a été dit. Alors, qu'était-ce que le régiment de Vaillac? C'était un régiment nouvellement constitué avant le siège de Montauban, en juillet 1621, par Nicolas Ricard de Gourdon-Genouillac, une autre illustre famille quercinoise, comte de Vaillac, qui donc a participé au siège de Montauban et ensuite a été cantonné à Nègrepelisse, où il a été victime de ce massacre. Alors, tout laisse à penser que ce régiment de constitution locale était aussi, en grande partie ou principalement, de recrutement local, c'est-à-dire se recruter dans les terres du Quercy, et qu'il y a eu donc une sorte là d'exaspération supplémentaire et qui explique la profondeur de la rancune, du ressentiment qui va déboucher sur la vengeance. Et en effet, Charles Bernard nous dit, il n'y eut jamais, Charles Bernard qui a quand même suivi plusieurs campagnes, hein, il n'y eut jamais haine si forte, ni si furieusement exercée entre personnes d'une même nation que celle d'entre nos soldats et ceux de Nègrepelisse. Autant qu'ils s'en rencontraient, ils portaient la peine de la garnison qu'ils avaient égorgée, ils, les gens de Nègrepelisse. Il y eut des goujats qui en pendirent à des arbres. Des goujats, c'est les valets qui suivent l'armée. Et il y a la célèbre anecdote qui est reprise ailleurs. Un d'entre eux, tombé en leurs mains, n'étant pas loin d'une vigne qui lui appartenait, eut ce fol désir de n'être attaché qu'à un noyer qu'il avait fait planter, et il l'obtint. Il s'est fait pendre à son noyer. La rage de cette rébellion, écrit l'historiographe, avait perverti les sens et les affections des uns et des autres que le rire et la gausserie trouvaient même parmi les supplices. Il y a quand même là un regard qui n'est pas un regard, vous le voyez, qui légitime le massacre de la part d'un très proche du roi. Quelques soins qu'on apporta pour réprimer cette forcénerie, si fut-il impossible d'en venir à bout. Or, quelle a été la réaction de Louis XIII? Eh bien, la question, et là aussi c'est un apport du récit de Charles Bernard, la question a bel et bien été débattue en sa présence, autour de son lit, parce que les deux principaux du conseil que j'ai nommés, c'est-à-dire le cardinal de Retz et le prince de Condé. Le cardinal, nous dit-il, l'incitant à apporter, je cite, son soin à faire cesser de telles cruautés, et exaltant la clémence comme vertu des grands princes, étendant leurs mains salutaires et bienfaisantes sur ceux qu'ils voient soumis à leur puissance. Donc le rôle du cardinal de Retz, qui d'ailleurs va mourir peu après à Béziers, hein, c'est ce dernier moment, dans cette affaire, mérite quand même d'être relevé. Il n'y a pas eu une mobilisation des esprits générales pour soutenir un tel massacre. Condé, en revanche, le prince de Condé, fils d'un chef protestant, pourtant, on le rappelle, justifiait, lui, la sévérité de la répression de ceux, disait-il, qui s'étaient si opiniâtrement révoltés contre le service du roi. Et pour récuser la bienveillance du prélat, il ne craignit pas d'en appeler à l'Écriture sainte. Je cite de nouveau Bernard. « Cela se disait au lit du roi, près duquel était son bréviaire, car il venait d'ouïr la messe dans sa chambre. Monsieur le prince le prit et lui montra le service du jour, qui était le 9e juin, dont les leçons était tiré du texte de la Bible. C'était le commandement que Samuel faisait à Saül de la part de Dieu d'exterminer les séditieux Amalécites qui s'étaient élevés contre leurs supérieurs sans pardonner à chose quelconque. Et la punition que Saül en souffrit pour n'y avoir pas obéi ponctuellement, ce qu'il disait, le prince, n'être pas éloigné, mais avoir quelque convenance avec l'affaire qui se présentait. Est-ce que Louis XIII serait un Saül qui mollit, si j'ose dire, devant la nécessité de la répression? C'est un peu ça que l'on veut dire. Alors la controverse, on le voit, elle était à la fois théologique et politique. Et le roi, appelé à la tranchée, ne manqua pas de se prononcer sur ce double registre. Ça, c'est des éléments que je n'ai trouvés que dans Bernard. Sur le plan politique, dit le roi, il fallait en effet user de justice contre une rébellion si opiniâtrée. Mais il fallait qu'elle se fît par ses formes propres, et contre peu, c'est-à-dire contre un petit nombre de responsables. Et surtout, contre ceux qui seraient trouvés en grande faute. Ce qui revenait en tout cas à récuser la violence de masse qui s'était déchaînée ou allait se déchaîner. Quant à l'exemple biblique invoqué par Condé, il ne pouvait, pour Louis XIII, légitimer la violence présente, car, dit-il, c'est le roi qui le dit, ces choses ne s'étaient faites que pendant la loi de rigueur et non pas dans celle de grâce. C'est-à-dire, la loi de rigueur, c'est la loi de Moïse, et la loi de grâce, c'est la loi de Jésus-Christ. Donc, ce qui était des formes de violence qui étaient légitimes dans la loi de Moïse, ne l'était plus dans la loi de Jésus. Si bien, conclut Charles Bernard, que le roi demeura ferme en ce qu'il avait résolu d'apporter un tempérament, on dirait une modération, aux punitions. Alors, voilà qui nuance quand même quelque peu ce qu'on peut lire ailleurs de la responsabilité du roi dans l'affaire. Il n'en reste pas moins que nous devons constater que ses intentions restèrent lettres mortes, puisque le massacre eut lieu et fut mené à son terme. Que s'est-il passé? Est-ce que les ordres du roi qui, de sa chambre, ajoute Bernard, avait défendu les violements et les incendies, ces ordres n'aient pas eu la détermination, la précision voulue? Soit que leur transmission dans la chaîne de commandement n'ait pas été assurée. Soit que l'explosion du désir de vengeance des troupes ait été le plus fort et laissé libre cours à un massacre. Un massacre, au demeurant, assuré de l'impunité. Et ça, c'est un facteur, si vous voulez, évidemment aussi aggravant à prendre en compte. Le feu fut mis à la ville, et on ne peut dire par la faute de qui, dit Bernard, sans rien mentionner de la recherche des responsables qui auraient pu être engagés, et encore moins de leur châtiment, ce qui veut dire qu'on a laissé faire. Et en tout cas, dans le comportement du roi, après avoir énoncé ses bons principes, remis de son indisposition prolongée, le roi semble avoir quitté Nègrepelisse en fermant les yeux sur les cendres et ruines déplorables qu'il laissait derrière lui. Il y a là, vous le voyez, encore, à mon avis, à retravailler cet épisode, qui est quand même un épisode crucial sur ce qu'il faut bien appeler au moins un crime de guerre et peut-être un crime contre l'humanité, si l'on retient nos critères actuels. Alors, il repart pour rejoindre cette fois l'objectif de l'étape principale de cette campagne, c'est le siège de Saint-Antonin, car il avait envoyé préalablement le duc de Vendôme pour mettre en place le dispositif du siège pendant que se déroulait celui de Nègrepelisse. Il fait étape le 12 juin à Montricoux et rejoint l'avant-garde de l'armée le 13, où nous dit son médecin Héroard, il fait ses affaires dans une grange. Et oui, la crise n'est pas encore liquidée. Et il mange un morceau sous les pruniers, nous dit-on, avant d'aller observer le siège. Et à son arrivée sur les lieux du siège, il évite une balle de plomb de la grosseur d'un œuf. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il s'est approché suffisamment près pour encourir le risque. Il faut ensuite résoudre la question de son logement, qui se révèle particulièrement problématique. On ne lui trouva dans le hameau des Granges. Alors, qu'est-ce que je fais appel aux connaisseurs ? Qu'est-ce que le hameau des Granges ? Entre ici et cette fond. C'est là qu'on lui trouve une misérable chambre de 10 ou 11 pieds en carré. Alors j'ai calculé, ça fait 10 mètres carrés. Hein, dont le plancher était si bas que son lit, à grand-peine, il pouvait être dressé. Mais en plus, il y manque de l'eau. Il fallait puiser l'eau dans une seule petite fontaine en forme de puits où les chevaux en particulier ne peuvent pas boire. Et il s'agit en outre d'une eau très trouble. Là, vraiment, ça n'est trop. Il y passe une nuit, mais le lendemain, après avoir entendu la messe en sa chambre, il enfourche son cheval à midi pour arriver seulement à 2h30 à Caylus de Bonnette. 2h, ça m'a paru très long, ça, 2h30 à cheval, pour ce parcours. Il va y résider 10 jours, du 14 au 24 juin, pour en repartir après la reddition de Saint-Antonin. Alors, je ne voudrais pas trop m'apesantir sur ces derniers moments de cette campagne. L'emploi du temps de ces journées à Caylus est assez comparable à celui que j'avais pu observer l'année précédente durant son long séjour à Piquecos. Il semblerait à Caylus, demain, je pense que vous pourrez le voir, la tradition locale le veut, qu'il ait été logé dans une maison particulière qui est au bout de la rue droite et presque à l'angle de la grande place, et qui s'appelle aujourd'hui à Caylus, pour cette raison, la maison du roi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une source archivistique qui le confirme. Son lever quotidien, d'après Héroard, à une heure variable, est immuablement suivi de la prière dans sa chambre. Car ça, Louis XIII, la prière du matin et la prière du soir, il ne les rate jamais. Puis d'une visite à l'église, tous les jours, probablement pour y entendre la messe. Pendant ces quelques jours à Caylus, il renoue, alors qu'il n'en avait pas été question depuis le début, depuis Moissac en tout cas, avec sa passion favorite, c'est-à-dire la pratique de la chasse, puisqu'au moins à 3 reprises, on le voit se faire porter son arquebuse pour aller tirer aux oiseaux volants, nous dit-on. Il n'oublie pas de suivre la délibération politique, puisqu'il y aurait eu 3 conseils réunis à Caylus, le 15, puis le 21 et le 22, des conseils qui n'étaient peut-être pas très nombreux, mais qui était indispensable pour que chaque fois il pût former sa décision. Et on rapporte aussi ces conversations familières en soirée, 2 fois je crois, avec le prince de Joinville et 1 fois avec Bassompierre, qui était un joyeux de rire et avec lequel la conversation devait être animée. Mais bien entendu, il se préoccupe surtout du déroulement du siège. Et il s'y rend 3 fois de Caylus. Le 16, il y consacre la journée. à 10 heures, monte à cheval et va au camp, nous rapportait Roar, au-dessus d'une batterie où il y avait deux couleuvrines. En pointe par deux fois, lui, le roi met la main, si vous voulez, à la couleuvrine, tire sur des paysans qui remparaient, c'est-à-dire qui travaillaient au rempart, en tue deux à la deuxième fois. Ben oui, le roi, un soldat comme un autre, un artilleur comme un autre. Et il revient à 8h15. Il repart le 19. Et Roar nous dit à 1h, monte à cheval et va au camp, où il voit faire une attaque à une corne. Alors, l'expression suite est magnifique. À une corne qui fut virilement soutenue et repoussée par les femmes, virilement, à coups de hallebarde. Monsieur le duc de Ray fut blessé près du roi d'une mousquetade à travers du genou, la balle demeurant dedans. Il semble qu'effectivement, là, la balle soit passée très près du roi. Et c'est sûr, en tout cas, qu'il ne répugne pas au risque dans des cas comme celui-là et qu'il veut se montrer un soldat au combat. Néanmoins, la manière dont le siège est mené lui déplaît, il tient conseil et il s'en revient, nous dit-on, fort fâché, à 9h15. C'est le moment où il y a ces grandes discussions pour savoir comment en finir avec Saint-Antonin. Enfin, le 23, il y revient, il dîne, c'est-à-dire c'est le repas de midi, chez Schomberg, où il ne boit que 3 petits verres de vin, et il nous dit Roar, il assiste enfin à la sortie de la garnison de Saint-Antonin, et le lendemain, de bon matin, de très bon matin, il va quitter Caylus pour gravir le roche d'Anglard en direction de Toulouse, en fait, qu'il va gagner par là. Voilà ce séjour à Caylus. Qui va, et je terminerai là-dessus, malgré tout, révéler une autre dimension qui n'a pas été évoquée jusqu'ici de cette campagne dans notre région. C'est la présence ou la résurgence d'une hostilité enracinée au sein des populations entre protestants et catholiques. Alors, d'une part, il est recueilli le témoignage de mécontentement de l'impopularité, je dirais, de la population de Saint-Antonin parmi les autres localités. Charles Bernard nous dit ceci. Je vous lis le paragraphe parce qu'il est assez révélateur des mentalités. Saint-Antonin, autrefois cette ville se laissa infecter de l'hérésie des Albigeois. Cette idée qu'il y a des populations, j'allais dire, indécrottablement hérétiques à travers les siècles, est une idée que l'on retrouve ailleurs. Et on fut puni rigoureusement. Étant touchée de pareille légèreté, elle a depuis été l'une des premières villes qui se soit portée à la nouvelle hérésie, c'est-à-dire le protestantisme. Mais voilà, la phrase essentielle, c'est la suivante. Cela lui apporta l'envie et la haine de plusieurs lieux d'alentour, avec ce qu'elle s'était enrichie des dépouilles des villes circonvoisines auxquelles de longtemps elle faisait la guerre, et dont depuis elle a attiré tout le commerce chez soi, le seul trafic de ses pruneaux montant à plus de 300 000 livres par an. Donc le monopole des pruneaux confisqués par Saint-Antonin prive les villes voisines de leurs ressources. Et il précise, Villefranche, Montricou, Caylus et les villages qu'elle avait traités bien aigrement étaient bandés contre elle de longtemps. En cette dernière affaire, il se portait de telle ardeur à lui nuire que de tous côtés, les paysans, de leur bon gré et sans semences, venaient pour travailler aux tranchées que nos gens y faisaient. Et effectivement, dans les récits du siège, on voit attester la présence, d'après un texte, jusqu'à 6000 personnes qui sont là pour contempler ce qui se passe ou peut-être prêter la main à l'armée. Il y a donc eu, semble-t-il, une mobilisation de catholiques environnants qui supportaient mal la prééminence réelle qu'avait obtenue Saint-Antonin. Et un autre épisode qui se passe sans doute à Caylus va l'accréditer et le confirmer. C'est lorsque sa Majesté, retournant à son logement, vit une troupe de 200 ou 300 hommes, partis armés d'arquebuses et d'épieux, les autres d'épées seules, ou de fourches et autres bâtons, que la nécessité peut faire prendre à des paysans. Et ces gens s'étant jetés à ses pieds, l'un d'eux, qui était d'assez bonne façon, commença à parler en ces termes. Il y a donc une mobilisation, et vous allez le voir, c'est une mobilisation évidemment qui est imprégnée de cet esprit de croisade dont ce matin nous parlait M. Krumenacker. Je ne vais pas tout vous lire, mais je pense que cette harangue, dont certainement notre historiographe s'est fait remettre le texte après, est quand même très significative. « Ces pauvres gens, sire, que votre majesté voit prosterner à ses pieds, sont les misérables restes de plusieurs villages. Que l'oppression des habitants de Saint-Antonin a rendu épars et sans aucune demeure assurée. Ils n'ont pas seulement vu souiller leurs autels, démolir leurs églises et honteusement profaner ce qu'il y avait de plus saint et de plus religieux entre les hommes. Mais, étant dépouillés de leurs biens et poursuivis en leur vie par ceux qui se disent de la religion réformée, ils ont été mis en tel désespoir que n'ayant plus que les armes, où ils ont mis leur dernier refuge et leur conservation, ils les viennent consacrer à votre majesté, que Dieu destine très certainement pour punir ces mauvais sujets des révoltes qu'ils ont faites plusieurs fois contre l'autorité des rois, vos prédécesseurs, et contre la vôtre. » Et etc., etc. Alors, il se révèle, cette harangue assez élégante, et prononcée d'une voix toute pleine d'ardeur, firent juger que cet homme était en fait un ecclésiastique. Et c'était donc évidemment un curé, un prêtre des environs qui avait mobilisé ses ouailles pour venir rendre ses services au roi. Alors ça me paraît évidemment contrebattre un petit peu ce que j'ai entendu aujourd'hui. C'est-à-dire que l'application de l'édit de Nantes avait introduit une certaine forme de coexistence pacifique. J'ai l'impression que dans notre petite région, en tout cas, les souvenirs, les séquelles des guerres de religion avaient entretenu une mémoire d'hostilité. Dans le cas de Caylus, elle se réfère très précisément d'ailleurs à un épisode qui est en 1562, 60 ans avant. C'est le massacre perpétré par un chef protestant, Duras, dans lequel il y aurait eu 120 prêtres exécutés et de nombreux habitants. Ce massacre de 1562, sur lequel on a une chronique, a laissé une trace durable dans les esprits. Et en définitive, cette campagne, qui est essentiellement une campagne des armées du roi, bien sûr, on l'a dit, on l'a vu, et c'est ce qui fait l'essentiel des victimes, mais elle s'appuie aussi d'une certaine manière, elle se nourrit sur une cicatrisation des mémoires qui n'est pas accomplie, me semble-t-il, à cette date. C'est en tout cas la conclusion que je me permets de suggérer. Je vous remercie.